Chapitre 6. Saïmina. Le prince des Eridim se laissa tomber à genoux devant le feu qu'il avait allumé. Autour de lui, la nuit semblait appeler elle-même les forces obscures. Ses yeux s'allumèrent de rouge devant la danse des flammes. Comme chaque soir, il savait que le maître viendrait le visiter. Il avait offert son âme et celle des 11 autres Eridim à Maolmorda, en échange d'une place à ses côtés. On ignorait presque tout de ces chevaliers sans patrie. Ils étaient venus du nord pendant la guerre de Méricourt et avaient commencé à s'imposer comme une force dévastatrice sans pitié. Malgré tout, depuis toutes ces années, la caste des Eridim n'était jamais parvenue à renverser le conseil des druides qui dominait le monde avec arrogance. En se soumettant à Maolmorda, Sultor savait qu'il allait enfin obtenir sa vengeance. L'Unseen pourrait commencer. Les druides tomberaient les uns après les autres, comme Aldero avant eux, et l'on verrait bientôt l'avènement du règne de Maolmorda, et avec lui, de Sultor et des chevaliers Eridim. Le jeteur d'ombre savait que sa soumission absolue était le prix à payer. Il avait trempé sa lame et celle de ses hommes dans le sang que leur avait offert le maître. Maolmorda leur avait donné le feu, l'instinct sombre et la vitesse. Ils avaient gagné une puissance nouvelle à ses côtés, et les druides eux-mêmes ne pourraient plus les arrêter. Le règne du conseil était fini. Sultor n'attendait plus que de pouvoir les tuer, un à un, à main nue, plongeant ses griffes dans le cœur battant des grands druides, ses ennemis éternels, volant leur âme pour les détruire enfin. Il les emmènerait dans le néant de Jar, le monde vide et froid où les pensées deviennent mortelles. Maolmorda lui avait appris à contrôler cet espace immatériel redouté par les druides eux-mêmes. Personne ne pourrait lui résister, perdu dans ce néant obscur. Il lui suffirait de les entraîner avec lui dans l'au-delà, grâce aux manides de Jar, et les tuer serait alors un jeu d'enfant. « Maître, » commença Sultor quand apparut enfin l'image vacillante de Maolmorda au milieu des hautes flammes. « Ils ont repoussé les Gorgounes. » Et ils continuent à présent leur fuite vers le nord. Les flammes grandirent soudain, comme sous la colère d'un vent puissant, et avec elles, l'image de Maolmorda. « Ils vont sans doute à Saïmina. Prenez 3 Eridim avec vous, Sultor, et ramenez-moi le corps de cet enfant dans le linceul que je vous ai confié. »
« Oui, maître. »
Ne me décevez pas, prince des Eridim, votre échec pourrait nous empêcher d'arriver à nos fins.
Maître, je vous ramènerai très vite cette vipère au temple de Shanka. J'en fais le serment.
L'instant d'après, l'image de Maolmorda disparut dans les flammes. William attendait depuis près d'une heure qu'on vienne le chercher dans le petit cabinet sombre où les druides l'avaient enfermé, afin que débute son initiation. Il n'y avait rien ici qu'une obscurité totale qui forçait à la réflexion. Au fond de lui, il savait que c'était le but de cet huis clos. Inciter l'apprenti à réfléchir pour qu'il fasse le deuil de son ancienne vie. Mais William, lui, ne parvenait pas à méditer calmement. Il était plutôt angoissé par les épreuves qui allaient suivre et dont il ne savait pas grand-chose. Il aurait aimé pouvoir garder la sérénité d'un sage, mais son esprit s'envolait plus avant, à la recherche d'un réconfort qu'il ne trouverait guère. Devait-il chercher le Saïman au fond de lui, afin de réchauffer son corps et se calmer? Ne pouvait-il y parvenir par lui-même? Mais s'il était si inquiet, cela ne signifiait-il pas qu'il n'était pas encore prêt pour devenir druide? Ou bien tous les apprentis ressentaient-ils la même angoisse entre les quatre murs de ce cabinet noir? Se posait-il les questions qu'on voulait qu'il se pose? Y avait-il une attitude et une seule à suivre pour être un apprenti parfait et devenir un druide accompli? À toutes ces questions, il n'osait répondre. Et quand enfin on vint le chercher, William était sur le point de saisir le Saïman au fond de lui-même. Quand la porte s'ouvrit, il reconnut Shehan, l'un des 12 grands druides, malgré la capuche blanche qui couvrait son visage. Il ne pouvait pas se tromper, les gestes lents, la démarche, ce ne pouvait être que Shehan, le plus mystérieux d'entre tous, le plus mystique. « Qui es-tu ? » demanda Shehan d'un ton solennel. William avait appris le rituel. Il connaissait les mots par cœur et se contenta de les répéter. Mais cette fois-ci, ces mots prenaient tout leur sens, un sens profond qui lui parut bien plus clair. « Un vat, » répondit-il sans hésiter. « Que veux-tu ? » continua Shehan en posant une main sur l'épaule de l'apprenti. « La lumière. » « As-tu fortifié ton âme dans la solitude de ce lieu ?»«
Oui. »
Le rituel m'oblige à mentir. Je n'ai rien fait d'autre qu'angoisser dans ce maudit cabinet. Aurais-je dû dire la vérité et répondre non? Ou bien toutes les questions que je me suis posées ont-elles en réalité fortifié mon âme? Je voudrais comprendre. Ce rituel, c'est comme les triades. On l'apprend par cœur, puis on doit le comprendre soi-même par la suite. Dois-je tout comprendre aujourd'hui? Ou bien cela se fera-t-il petit à petit?
Alors tu peux me suivre, Vat.
Shehan se baissa pour aider William à enlever ses sandales. Le jeune apprenti devait marcher pieds nus pour la cérémonie. Il remercia humblement le grand druide, puis le suivit jusqu'à la sortie du long couloir où on l'avait enfermé. Ils arrivèrent alors dans la cour de Saïmina, où se trouvait le grand cercle de pierre réservé aux cérémonies. Le spectacle était éblouissant. On avait allumé des torches dont la lumière vacillante dessinait des ombres sur les manteaux blancs des druides et sur les pierres levées, si bien qu'elles semblaient vivre. Ceux qui avaient été bardes auparavant, les sonneurs, jouaient ensemble de leur harpe sur le mode de la tristesse, une mélodie somptueuse qui soulevait le cœur, portée par l'odeur légère de l'encens qui brûlait alentour. Tous les grands druides et les druides de Saïmina étaient là, assemblés à l'intérieur du cercle, tournés vers l'est, vers le chêne centenaire sous lequel siégeait l'archidruide, là où le lendemain, comme chaque matin, viendraient briller les rayons du soleil. William, toujours guidé par Shehan, fut amené au cœur d'une procession qui l'attendait à l'entrée du cercle de pierre. Devant lui, deux druides portaient chacun une partie d'une épée brisée. Autour d'eux, quatre autres portaient au bout de hautes perches un drap de lin blanc garni de gui qui couvrait toute la procession telle une tente. William sentit les poils de ses bras se hérisser. Tout son corps était parcouru de frissons glacés. Était-ce la peur? La joie? La mélancolie des notes? Toutes les émotions se mélangeaient au cœur de la nuit, et il avait l'impression d'être plongé au milieu d'un rêve. Ses pieds semblaient glisser tout seuls derrière Shehan, qui le guidait maintenant vers l'ouest du cercle, au rythme des accords de harpe. Quand ils furent à l'opposé du chêne majestueux, ils s'arrêtèrent devant une pierre polie, sur laquelle on avait posé du pain et du sel. Shehan lâcha l'épaule de William et s'approcha de la pierre pour prendre les deux éléments. Chacun de ses gestes était lent, précis, respectueux presque. Il mit le sel sur le pain, puis tendit le tout à William en souriant.
Vat, ce pain et ce sel sont la terre par laquelle tu meurs et peux renaître.
William inspira profondément, cherchant jusque dans son souffle le courage qui commençait à lui manquer. Puis il mangea le pain que lui tendait le grand druide. C'était un pain de seigle, épais et croustillant. Il le mâcha lentement. Il se laissait pénétrer par les phrases de son guide, se disant qu'il aurait toute sa vie pour les assimiler. Il reposa la moitié du pain sur la pierre, en signe de reconnaissance, et la procession se remit en route, tournant de nouveau autour du cercle de pierre pour s'arrêter cette fois devant une dalle située au nord. Là, on avait posé une coupe d'eau que Shehan tendit à l'apprenti.
« Vat, voici l'eau qui te purifie. »
William prit la coupe et but toute l'eau qu'elle contenait. C'était une eau fraîche et douce, et il eut l'impression délicieuse de la sentir couler tout le long de son corps, telle une douche apaisante. Shehan posa de nouveau sa main sur l'épaule du jeune homme et le guida plus avant, de l'autre côté du cercle de pierre, vers le sud. William était tellement ému qu'il ne sentait même plus le froid de la terre sous ses pieds nus. Il avait l'impression de partager la chaleur de toute l'assemblée, comme s'il ne faisait plus qu'un. La procession s'arrêta devant la dernière pierre. Là, on avait fixé une torche allumée. Shehan la prit et la tendit doucement à William.
pâte. Voici le feu qui t'éclaire. »
William prit la torche qu'on lui tendait et se remit en route derrière les druides qui le menèrent enfin au milieu du cercle de pierre, à quelques mètres à peine de l'archidruide. Les quatre druides qui portaient le drap de lin blanc passèrent devant lui et lentement laissèrent retomber le voile et le gui sur le sol. Puis ils s'écartèrent avec les bardes pour rejoindre les grands druides le long du cercle.
William frémit. Il commençait à se sentir seul. Tous les regards étaient tournés vers lui à présent. Il ne restait plus que Shéan à ses côtés, qui le guida alors jusqu'au milieu du drap blanc.
Le contact du lin était doux, réconfortant. William posa son regard sur le vieux chêne. Il ne l'avait jamais vu de si près. Le cercle était interdit aux apprentis. C'était un arbre magnifique, qui, malgré la saison, était déjà lourd d'élégantes feuilles lobées.
« Archidruide !»
lança Shéan à l'attention d'Aileen qui siégeait près de l'arbre ancestral.
« Je te présente, William, Vat, que nous avons jugé digne de devenir druide. »
La gorge de William se noua. Ils arrivaient au moment le plus important du rituel.
Il dit « nous », mais c'est Aileen lui-même qui semble m'avoir jugé de devenir druide. Et s'il se trompait, si je n'étais pas prêt, peut-être Aileen est-il allé trop vite. Peut-être a-t-il voulu accélérer les choses pour se servir de moi en m'envoyant en Galassie et en Sar. Non, je ne peux pas douter de l'archidruide. Ces choses-là sont importantes. S'il m'a jugé digne, c'est qu'il pense vraiment que je le suis. Alors pourquoi puis-je encore en douter? Sans doute parce que j'ai peur.
Aileen, se redressant sur son trône de pierre, posa un regard circulaire sur l'assemblée des druides. Puis d'une voix forte et grave, il demanda.
« Y a-t-il la paix ?»« Il y a la paix !»
répondirent d'une seule voix les druides et les grands druides à l'intérieur du cercle.
« Alors, » reprit-il d'une voix plus basse, « puisqu'il y a la paix, nous allons procéder. »
Shéan serra une dernière fois l'épaule de l'apprenti, puis se retira à son tour, le laissant seul devant l'archidruide. Le jeune Vat sentit son corps trembler et essaya de ne pas perdre le contrôle de lui-même. Toute sa vie lui revenait en souvenir par vagues étouffantes, des images confuses qui se noyaient les unes dans les autres et le ramenaient toutes ici, dans ce cercle de pierre, sous un ciel nocturne, lourd et muet. Soudain, la voix de l'archidruide le sortit de sa rêverie.
« C'est au nom de la Moira, Vat, William, Kelleren, que nous te demandons à présent si élevé à la fonction sacrée de druide, tu en exerceras les pouvoirs exclusivement pour ce qui te semblera être le vrai bien. »
William avala sa salive et leva les yeux vers l'archidruide. L'interrogatoire commençait. Les paroles apprises par cœur lui venaient toutes seules, mais il voulait les dire comme il les sentait. Il désirait être sincère, et il laissa son âme parler.
De tout mon cœur, je m'efforcerai de le faire.
Promets-tu de te souvenir, avec l'aide de la Moira, qu'en cette fonction à laquelle tu es appelé, tu auras le devoir absolu et devras avoir le souci constant de donner l'exemple d'une vie saine à tous ceux qui te seront confiés?
Je le promets. Répondit William, alors que l'image furtive de ses parents revenait le hanter, comme pour sceller sa promesse.
Promets-tu de garder précieusement, comme un dépôt sacré, le pouvoir qui te sera conféré?
Je le promets, répondit-il de nouveau, et ces mots-là étaient sincères.
Promets-tu de te tenir constamment prêt à servir tous les hommes, autant que tu en es capable?
Je le promets.
Que nos ancêtres te gardent, frère bien-aimé, et qu'ils te fortifient dans ta dignité. »
William, le cœur battant, se mit à genoux.
« Tu pourras maintenant enseigner, en toute responsabilité, ce que tu jugeras bon d'inculquer à ceux que tu estimeras, en toute conscience, dignes de recevoir cet enseignement. La responsabilité de toute divulgation devient tienne. » Tu es délié du secret.
la Moïra. Voilà ce que j'ai toujours attendu. Je deviens druide. Le même druide que celui qui, il y a plus de 10 ans, me reçut gratuitement dans son école parce qu'il me jugea digne de recevoir son enseignement. Saurais-je avoir sa bonté? Saurais-je enseigner aussi bien qu'il l'a fait? Serais-je moi-même à la hauteur de mon rêve?
L'archidruide se leva et vint devant William afin d'imposer ses 2 mains sur sa tête baissée.
Moi, Elder Morgo le sanglier, fils de Sundin, dit Govu le barde, dit Aileen le druide, archidruide au cercle sacré de Saimina. J'élève devant les Gaéliens sa sérénité, William, à la dignité de druide. En honneur de ce degré, et parce que ses maîtres disent de lui qu'il est un homme juste, il sera appelé Fingin le druide par ses frères et par tous les hommes. Que la Moïra te protège, Fingin.
Tous les druides assemblés applaudirent chaleureusement leur nouveau frère et se rapprochèrent lentement de lui. William, étourdi, ne comprenait plus trop ce qui se passait. Il voyait vaguement ses ombres se rapprocher au-dessus de lui, et la main d'Aileen, qui reposait toujours sur son front, semblait devenir de plus en plus chaude, comme si le Saïman du vieil homme se concentrait sur sa tête. Soudain, il lui sembla qu'il perdait connaissance. Il vit une intense lumière blanche, pas seulement devant lui, comme s'il avait regardé une source lumineuse, mais tout autour de lui, jusque dans chaque recoin de son esprit. C'était une lumière intérieure, entière. Puis plus rien. Le vide absolu. Cela ne dura qu'un instant, mais quand il reprit connaissance, il sut qu'il n'était plus le même. Aileen avait changé quelque chose en lui. Ouvert une porte, brisé une chaîne. Il lui semblait qu'il voyait mieux, qu'il entendait mieux, que tous ses sens avaient atteint un degré de conscience supérieur, et le Saïman, au fond de lui, n'avait plus la fragilité floue de jadis. C'était une énergie brillante, forte, qui ne faiblissait pas, qui ne faiblirait plus. William recouvra quelque peu ses esprits et vit Sheehan qui le serrait dans ses bras.
« Tu es un druide, Fingin. Allons, ceci est à toi !»
Il lui tendit alors le manteau et le bâton blanc des druides. Le jeune homme, essayant de se ressaisir, mit le manteau sur ses épaules et prit le bâton de ses 2 mains. Il avait attendu ce moment depuis tellement d'années qu'il avait l'impression que ce bâton lui avait toujours appartenu. Les druides vinrent chacun leur tour embrasser l'initié, et dans leurs yeux brillait un amour sincère. William, qui allait devoir s'habituer à son nouveau nom de Fingin, laissa enfin couler des larmes qu'il avait retenues trop longtemps. Au loin, il entendit les bardes qui recommençaient à jouer, sur le mode du sourire cette fois.
« Jusqu'où devrons-nous aller ?»
demanda le fils de Sarkhan à son père.
« Pourquoi poses-tu cette question, mon fils ?»
Tagor était l'un des plus jeunes guerriers du clan Maat Angor, et il avait toutes les chances de devenir, un jour, à la suite de son père, le chef des clans. Une responsabilité dont il se serait finalement bien passé. C'était un guerrier courageux et fort. Comme tous les hommes du clan Maat Angor, il avait le torse couvert de peinture bleue, et une longue crête de cheveux sur le crâne. Son corps semblait taillé dans le roc. Il avait un charisme singulier, et de nombreuses filles du clan auraient bien aimé un jour devenir son épouse. Depuis son plus jeune âge, il avait fait la joie des Aïgab, ces dîners exclusivement réservés aux femmes, où l'on se plaisait à parler de ses yeux peu ordinaires, l'un bleu et l'autre noir. Aujourd'hui, loin de penser à sa future femme, il avait combattu aux côtés des siens, comme chaque jour depuis qu'ils avaient quitté le Cid. Mais il n'avait pas la même rage que les Tuatan de la génération de son père. Sarkhan était assis près de la cheminée, dans une chaumière ravagée qu'ils allaient occuper pour la nuit. Ce n'était qu'une pause dans l'invasion des Tuatan, et l'un des rares moments où le jeune Tagor pouvait parler à son père. Sarkhan commença à enlever la peinture bleue sur son torse, ses bras et son visage, avec une éponge qu'il trempait dans l'eau bouillante qui frémissait près du feu.
« Il faudra bien s'arrêter un jour, »
répondit Tagor en passant derrière son père pour détacher les lanières de cuir qui nouaient sa crête. C'était une marque de respect dans les coutumes du clan, et chaque soir, Tagore s'appliquait à refaire la coiffure de son père selon la tradition. En temps de guerre, seuls les hommes avaient le droit de coiffer les crêtes des guerriers. En temps de paix, c'était le travail des femmes, et les cheveux, alors, ne se portaient pas de la même façon. Ils étaient lissés dans le dos, aplatis par une mixture de graisse animale. Tagore déposa respectueusement la tresse de lanière et de plume devant son père et retourna s'asseoir à ses côtés.
« Crois-tu, reprit Sarkane, que les Galaciens se sont arrêtés quand ils ont massacré nos ancêtres ? Tu ne dois jamais oublier que nous sommes ici chez nous. Regarde le nom des villages. Ne vois-tu pas qu'ils sont la marque de notre présence ? Les bourgs et même les villes portent presque tous des noms touatanes. Les Galaciens sont tellement stupides qu'ils ne savent même pas le sens des noms des villes qu'ils occupent. Et pourtant, c'est dans le ventre de la terre que se cache la vérité, mon fils, dans le nom des lieux. Toi, tu connais notre langue, tu sais lire le nom des montagnes, des villages, des temples oubliés.
Oui, mais devrons-nous pour cela tuer tous les descendants de ceux qui ont chassé nos ancêtres ?
Insista le jeune guerrier.
Tu parles comme un Galacien.
Pardon, père, je connais vos raisons et j'admire votre détermination. Mais il faudra bien un jour trouver un accord. Nous ne pourrons nous battre à jamais.
Les Galaciens ne veulent pas la paix, mon fils. Ils ont massacré nos ancêtres dans le seul but de posséder toute cette terre. On ne négocie pas avec ces voleurs.
Je vois, répondit Tagore, déçu.
Et pensez-vous qu'un jour, les Touatanes pourront retrouver la paix d'une simple chaumière comme celle-ci, pour y vivre toute une vie ?
Quand nous aurons repris ce qui nous appartient, oui, mon fils. Ton peuple a attendu plusieurs centaines d'années avant de retrouver la lumière du soleil. Vous, les plus jeunes, qui n'avez pas connu le monde du dessus, vous y êtes habitués, mais notre vraie place est ici. Nous avons juré. Tu sauras sûrement attendre encore un peu avant de poser tes armes. »
Le jeune Tagore retourna une bûche dans l'âtre de la cheminée pour raviver la flamme.
« Et si les druides nous attaquent ? On dit qu'ils sont très puissants.
J'ai ce qu'il faut pour nous assurer la neutralité des druides. Je te montrerai ça en temps voulu. Maintenant, dors, car demain nous partirons vers le sud, dans ce que les Galaciens appellent le comté de Terre Brune. » Où coule le Sinaïn ?
Sarkane sourit à son fils, puis il se leva brusquement et partit dehors, où l'attendaient les chefs des autres clans. Les trois voyageurs avaient quitté la route qui allait à Providence et coupé à travers champs pour rejoindre plus au nord la rive du fleuve Pourpre. Ils marchèrent pendant 3 jours, à travers la plaine d'herbes et de sable, dans un chaos de rochers gréseux, se reposant la nuit au milieu de la campagne, et ils ne rencontrèrent âme qui vive. Petit à petit, la blessure de Mjoln se faisait moins douloureuse. Il retrouva au soir du 2e jour son humeur joyeuse et put même se débarrasser de la béquille que lui avait confectionnée le druide. Au soir du 3e jour, Aléa ne se sentait pas bien. Son cœur semblait ne plus vouloir ralentir le rythme de ses battements et le sang cognait lourdement dans ses veines. Elle sentait au fond d'elle comme une urgence. Un sentiment de panique indéfinissable. Elle n'osa pas en parler à ses compagnons et partit vite se coucher dans le campement qu'ils avaient monté en hâte. C'était une nuit sans lune, où seules brillaient quelques étoiles, voilées par les nuages hauts. Aléa sombra rapidement dans un sommeil tourmenté.
Je suis debout devant la façade immense d'un temple dont les murs de pierre ont la couleur du sang. Non, ils n'ont pas la couleur du sang. Ils sont couverts de sang. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent, il n'y a même pas de temps. Juste moi, le temple et quelque chose. Lui qui me guette. Je ne sais pas qui il est, mais son regard est sur moi et suit chacun de mes gestes. J'essaie d'avancer. C'est d'abord impossible parce que mes jambes ne suivent pas. Elle reste coincée sur le parvis du temple, comme si elle faisait partie de la roche rouge, de sang. Puis il me laisse entrer. Non, il m'attire. Il n'y a pas de ciel, juste moi, le temple qui approche maintenant, lentement, et quelque chose. Lui. Je ne contrôle toujours pas mes jambes, mais cette fois-ci, ce sont elles qui me portent vers le temple. Trop vite maintenant. Quelque part au fond de moi, je sens que je ne suis pas prête. Je me laisse gagner par une vague de panique. Non, si je le rencontre maintenant, je ne saurai pas comment le battre. Il faut que je reporte mon attention sur autre chose. Je regarde à gauche. Il n'y a rien là. Mais si je force avec mon esprit, je peux faire apparaître quelque chose, j'en suis sûre. Il suffit de forcer. Là, voilà, cet arbre immense. Non, ce n'est pas un arbre. Ce sont des milliers de petits arbres, empilés les uns sur les autres et qui, ensemble, prennent la forme d'un arbre géant. Cette vision disparaît. Je regarde à droite. Il n'y a rien pour l'instant, mais là encore, je suis sûre que je peux faire apparaître quelque chose si je le veux vraiment. Oui, mais quoi? Je ferme les yeux. Quand je les ouvre de nouveau, je vois un animal. Une louve. Elle est belle. Sa fourrure est entièrement blanche. Elle tient un louveteau entre ses crocs. Son petit. Et maintenant, je vois qu'il est mort. Mais pourquoi le garde-t-elle dans sa gueule s'il est mort? La louve me regarde, se retourne et disparaît. Je n'ai pas réussi à distraire mon attention. Le temple est toujours là et il continue d'approcher. Bientôt, je serai entrée dedans. Pourtant, je sais qu'il ne faut pas. Il le veut parce qu'il sait que, pour l'instant, je suis vulnérable. Je suis vulnérable parce que je ne comprends pas encore ce que je vais devoir comprendre. Quel est cet arbre? Qui est cette louve? Le temple s'approche, inexorablement. J'ai tous les éléments de l'énigme, mais je n'arrive pas à la résoudre. Mon propre corps m'est étranger. Et quand enfin je crois que je ne pourrai plus reculer, quand l'ombre de la porte gigantesque semble prête à m'avaler, soudain, une main se pose sur mon épaule et m'arrête. « Ne passe pas là », me dit une voix que je ne connais pas. C'est la voix d'un garçon, jeune. Je n'ai qu'à me retourner, et je le verrai. Je me retourne. Le temple disparaît derrière moi, et lui avec. Le jeune garçon est là devant moi. J'ai peine à voir son visage. Il est flou. Tout ce que je peux voir, c'est qu'il a noué ses longs cheveux blonds derrière sa nuque. Je n'ai jamais vu un garçon avec des cheveux si longs.
Aléa fut réveillée en sursaut par Mjoln. Le nain s'était inquiété de la voir ainsi s'agiter dans son sommeil.
« Mauvais rêve ?» demanda un peu plus loin le druide qui semblait ne jamais dormir, assis près du feu, et qui la regardait lui aussi en penchant la tête.
« Non, non, c'est rien !» mentit Aléa, qui se retourna en soupirant. Elle ne put fermer l'œil du reste de la nuit. Mais petit à petit, le rythme de son cœur redevint normal, et la sensation étrange qu'il avait saisie depuis le soir la quitta au petit matin. Pendant la journée, elle préféra ne pas parler de son rêve et évita le regard inquiet du druide et de Mjoln. Au milieu du jour, ils arrivèrent enfin en vue de la rivière pourpre. Le soleil se reflétait dans l'eau du fleuve et se met à la surface des éclats éblouissants. Au sud-ouest, les montagnes de Gordraka paraissaient toujours aussi proches que la veille ou l'avant-veille. Mais le sol était de plus en plus vert, émaillé de fleurs. Il n'y avait pas un seul bâtiment à l'horizon. C'était la région la plus déserte de Galassie.
Nous longerons ce fleuve jusqu'à la côte, expliqua Félim. Et alors, nous ne serons plus très loin de Saïmina. Nous serons arrivés dans 2 jours.
Mjoln frappa gaiement dans ses mains.
Allons-y, mes amis. Je suis si curieux de voir Saïmina.
Mais Félim retint le nain par l'épaule.
« Attendez, Mjoln, je vois un nuage de poussière derrière nous, et il y a fort à parier que ce sont des cavaliers qui s'en viennent par ici. Je crois qu'il serait plus sage d'attendre pour voir de qui il s'agit. »
Aléa se dressa alors sur la pointe des pieds, et un frisson lui parcourut l'échine quand elle aperçut au loin le groupe dont parlait le druide. Une sensation bizarre l'étreignait, comme une urgence qui lui ordonnait de fuir.
Nous devons nous cacher, Félim. Ils sont mauvais, je le sens. »
Le druide dévisagea la petite. Il eut un léger mouvement de recul. Aléa crut l'entendre murmurer quelques mots dans une langue inconnue, puis le vieil homme acquiesça.
« Tu as sans doute raison. Cachons-nous.
Les trois compagnons partirent en retrait du chemin et se dissimulèrent derrière un taillis en fleurs. Ils se tapirent dans l'ombre des feuillages et restèrent silencieux jusqu'à ce que les cavaliers arrivent à leur hauteur. Il y avait quatre hommes, entièrement vêtus de noir, et on ne voyait pas leur visage, caché derrière de grandes capuches, hormis le plus grand des quatre qui, lui, portait un casque. Il était immense, beaucoup plus grand qu'un humain normal, et il fit signe aux trois autres de s'arrêter juste devant la berge. Il descendit de son haut cheval et s'accroupit sur le sol. De la main gauche, il ramassa un peu de terre qu'il porta sous l'ouverture de son casque, pour la sentir sans doute. Puis il jeta la terre derrière lui et se redressa.
« Elle est passée ici !»
lança-t-il aux trois autres cavaliers.
« Elle n'est pas loin, je la sens !»
Il regarda autour de lui, et derrière le taillis, Aléa eut le sentiment troublant qu'il avait croisé son regard. L'espace d'une seconde, qui lui parut une éternité, elle sentit le monde vaciller autour d'elle et entendit mille voix qui se mélangeaient. Elle vit Tara et Kerry. Elle vit Ilvin dans la lande, Félim, Faith, Almar, tous ces visages à la fois. Et elle fut saisie par un frisson de terreur absolue, perdue dans le flot continu d'images qui explosaient dans sa tête. Puis elle sentit la présence d'une force obscure, puissante, pénétrante, qui s'approchait, s'amplifiait autour de son esprit comme si elle voulait y entrer. Aléa, terrorisée, essaya de toutes ses forces de repousser cette énergie étrangère et glaciale qui cognait contre sa tête. Elle livrait au fond d'elle un combat qu'elle ne comprenait pas, mais son instinct ou quelque magie la guidait et lui criait de repousser cette force comme un gouffre de néant et de mort. Dans un ultime effort, elle parvint à se débarrasser de la puissance mystérieuse qui tentait d'envahir ses pensées. Au même instant, elle vit le cavalier noir remonter sur son cheval.
« C'est étrange, j'aurais juré qu'elle était là. Elle a dû passer par ici. »
Les quatre cavaliers disparurent dans la plaine sur leurs chevaux au galop. Mjoln, Félim et Aléa attendirent encore quelques instants sans bouger, puis se levèrent et sortirent du taillis. « C'est moi qu'il cherchait, » déclara Aléa, encore sous le choc. Félim passa une main dans la chevelure noire de l'enfant.
« Nous serons bientôt en sécurité, et le conseil des druides pourra mettre fin à tout ça, »
la rassura-t-il.
« Pour éviter de les croiser à nouveau, nous allons traverser la rivière ici et l'allonger plutôt par la rive sud. Nous rejoindrons ensuite Saïmina par la mer. Ainsi ces quatre cavaliers ne nous trouveront pas. »«
Par la Moïra, ils sont pires que des gorgounes, ces monstres-là !»
s'écria le nain. « Qui était-il ? » demanda Aléa, en marchant jusqu'à l'endroit où s'étaient arrêtés les cavaliers, comme pour inspecter les traces de leur passage.
« Des Érylim, » expliqua le druide. « Un ancien ordre de guerriers qui s'est aujourd'hui soumis à Maul Morda. »«
L'homme qui me recherche ?»«
Oui, nous devons à tout prix les éviter. »
Aléa dévisagea le druide et se dit que de nouveau, il ne révélait qu'une partie de la vérité. Mais elle avait trop peur pour insister. Partir, elle n'avait plus que ça en tête. Ils se mirent en route d'un pas vif, jetant de temps à autre un regard par-delà la rivière pour s'assurer que les cavaliers noirs n'étaient plus là. Mais il n'y avait plus rien que leurs souvenirs terrifiants. Imala avait quitté la plaine depuis plusieurs jours et s'était de nouveau enfoncée dans la forêt. Elle s'était enfuie quand les trois verticaux du campement dont elle s'était approchée s'étaient battus contre d'autres verticaux. Surprise par les explosions et les flammes qui avaient jailli pendant cet étrange combat, elle avait déguerpi sans réfléchir et ne s'était arrêtée que beaucoup plus tard, quand le vacarme s'était éteint. Elle n'avait rien mangé depuis le jour où l'étrange loup noir lui avait apporté un lièvre en cadeau, et elle commençait à souffrir de la faim. Elle chassait donc à présent au cœur de la forêt dense et venait de perdre la trace d'un écureuil qui avait grimpé dans un arbre. L'air était doux, à l'ombre de la forêt, et elle attendit longtemps, tapie au pied de l'arbre, espérant sans doute que le petit animal serait assez imprudent pour redescendre. Elle se laissa bercer par les bruits familiers de la forêt, se roula sur le dos pour se gratter contre le sol, puis perdit patience et se décida à trouver une autre proie. Elle s'enfonça plus avant dans la forêt de hêtres. Quelques rares rayons de soleil passaient entre les feuilles vertes qui emplissaient le ciel au-dessus d'elle. Les herbes et les brindilles s'accrochaient à sa fourrure blanche comme des confettis sur un manteau, et le pollen qui volait encore autour d'elle la faisait éternuer. Elle comprit soudain qu'elle quittait le territoire d'un clan de loups. L'odeur particulière, à laquelle elle n'avait pas fait attention jusqu'ici, brillait soudain par son absence, et elle se rendit compte qu'elle pénétrait maintenant dans un nouvel espace inconnu, où aucun autre loup, semblait-il, n'était passé depuis longtemps. Elle distingua en revanche une autre odeur, fort agréable, mais qui n'avait rien à voir avec celle des animaux de son espèce. Elle ralentit son pas et se mit à humer l'air autour d'elle, cherchant l'origine de ce parfum nouveau. Mais il était partout, et elle remarqua alors que l'odeur de la forêt n'était pas la seule à avoir changé. Les plantes et le sol n'étaient plus les mêmes, eux non plus. C'était comme si la nature tout entière avait été soudain réordonnée. Tout était là, les arbres, les herbes, la terre, les champignons, mais rien ne dépassait. Aucun arbre mort, aucune brindille cassée, aucune pourriture au pied des immenses arbres. La forêt était plus belle que jamais, et la louve se sentit merveilleusement bien dans cette perfection végétale. Après une longue marche, elle se retrouva soudain face à un nouveau vertical. Celui-là ressemblait à celui qui s'était assis devant elle quelques jours plus tôt. La même peau couleur de bois, les mêmes oreilles fines, hautes et pointues, la même chevelure dorée, et surtout, la même odeur. Une odeur qui se mariait harmonieusement à celle de la forêt. Le vertical était assis au milieu des arbres, et il était tellement immobile qu'on aurait cru qu'il dormait. Pourtant, la louve vit qu'il souriait et que ses yeux bougeaient. Elle hésita un instant, tourna un peu d'un côté, puis de l'autre pour épier l'inconnu, puis elle l'imita et s'assit sur son derrière. Le vertical ne bougeait pas. On aurait dit qu'il appartenait à la forêt, qu'il avait toujours été là. Quelques instants plus tard, un deuxième vertical, en tout point identique, vint rejoindre le premier et s'asseoir comme lui, puis un troisième, puis un quatrième. La louve recula de quelques pas, méfiante, et se tapit dans un bosquet. Les quatre verticaux se mirent à parler, et il lui sembla qu'elle les comprenait. Elle eut l'impression d'entendre dans l'intonation de leur voix l'expression de leur amitié. Ils lui disaient d'être calme, qu'elle n'avait rien à craindre, qu'ils étaient les habitants de la forêt. Pas de celle-ci uniquement, mais de toutes les forêts, comprit-elle. Ces messages si clairs qu'elle recevait soudain, comme sortis des entrailles de la terre, l'inquiétaient. Jamais on n'avait communiqué avec elle si entièrement. Les autres loups, eux-mêmes, n'étaient jamais parvenus à exprimer tant de choses. Confusément, elle essaya à son tour de manifester quelques sentiments, en poussant de discrets gémissements. Elle disait sa peur, sa surprise. Ils la rassurèrent. Elle exprima alors sa faim, et aussitôt, l'un des quatre verticaux disparut derrière les arbres. La louve sursauta, se dressant d'un bond, prête à fuir, mais un vertical chuchota quelques mots dont elle comprit le sens. L'autre était parti lui chercher de quoi manger. La louve grogna, incrédule. Pourtant, quelques instants plus tard, le vertical revint parmi eux et déposa devant Immala un muscardin qu'il venait de chasser. La louve attendit que le vertical s'éloigne, puis elle s'approcha lentement, sans quitter des yeux les quatre étranges créatures. Elle prit le petit mammifère dans sa gueule, après l'avoir reniflé. Elle se recula davantage pour manger tranquillement, puis quand elle eut fini, elle se coucha sur le flanc. D'un nouveau gémissement, elle tenta d'exprimer sa gratitude. Elle se dit qu'elle y était parvenue, car ils lui parlèrent de nouveau. Ils disaient leur amitié, simplement. Plus tard, ils se levèrent et s'éloignèrent en lui faisant comprendre par quelques phrases chuchotées qu'elle pouvait les accompagner. La louve attendit un peu. Puis elle se mit à les suivre de loin, en gardant une distance suffisante pour les voir, tout en ayant le sentiment de n'être pas vue. Elle resta ainsi avec eux pendant plusieurs jours, vivant des proies qu'ils lui amenaient, comprenant chaque jour un peu plus les paroles des verticaux, sans jamais les approcher au point qu'ils puissent la toucher. Aléa et ses deux compagnons de route arrivèrent enfin sur la côte, où l'embouchure de la rivière Pourpre se jetait dans un golfe bleu et peu profond. De l'autre côté de la baie, ils aperçurent l'incroyable édifice des druides. La haute tour de Saïmina, dressée comme un défi au-dessus des flots bleus, était le plus beau et le plus craint de tous les bâtiments de l'île de Gaelia. La masse flamboyante et complexe des contrescarpes de pierre grise se hérissait fièrement sur un éperon rocheux, prolongeant vers les cieux les falaises abruptes qui lui servaient de fondation, se mariant en douceur aux rocs blancs et droits qui donnaient corps à la presqu'île. Quatre petites tours flanquées de contreforts entouraient le donjon majestueux, carré jusqu'à mi-hauteur, là où un couloir en excroissance venait rompre sa rectitude, puis cylindrique jusqu'à sa cime, d'où pointait sur un toit de cuivre la bannière des druides, le dragon de la Moïra. Les tours, les courtines qui les liaient et le donjon inaccessible étaient enrobés de mâchicoulis réguliers qui faisaient des colliers de dentelle à l'élégante structure. C'était sans conteste l'édifice le plus complexe jamais construit sur le royaume et le plus mystérieux. Le conseil des druides l'avait fait bâtir pour asseoir sa domination sur le royaume un siècle plus tôt. L'archidruide avait choisi ce lieu parce qu'on y avait trouvé, selon la légende, le plus vieux chêne de la Gaelia. Les bâtiments avaient été construits autour, et l'on avait élevé un cercle de pierre dans la cour centrale pour faire de ce chêne l'arbre sacré qui surplomberait les plus importantes cérémonies druidiques. Saïmina était plus belle que les châteaux des vassaux, ce qui en disait long sur la position particulière du conseil dans la politique et les rapports de force qui régissaient l'île. Il avait fallu l'inspiration érudite de trois artistes byzaniens et l'adresse technique de quatre architectes nains avant que 300 ouvriers ne commencent les travaux, qui avaient duré 19 ans et auraient sans doute duré encore davantage sans l'aide particulière des druides et de leur magie. Il fallut construire des échafaudages au flanc de la falaise et l'on eut toutes les peines du monde à faire venir les matériaux qu'on monta sur les hauteurs de la presqu'île dans des chariots tirés par les bœufs les plus forts de la région. Plusieurs ouvriers trouvèrent la mort dans l'entreprise périlleuse et il fallut la volonté inébranlable des druides pour que l'œuvre soit achevée comme prévu. Nul ne connaît la somme exacte que le conseil engouffra dans ce rêve de splendeur. Et sans doute personne aujourd'hui ne pourrait réunir autant d'argent, ni obtenir le concours de tant d'artisans, d'artistes, d'architectes et d'ouvriers que seule l'autorité du conseil pouvait coordonner de la sorte. Aléa, à l'évidence, n'avait jamais rien vu de si beau. Quant à Mjoln, il était véritablement tombé sur le sol de stupéfaction et se perdait entre deux grognements de douleur dans des exclamations émerveillées.
« C'est beau, n'est-ce pas ?»
finit par dire Félim, et Aléa crut distinguer dans sa voix une note de fierté bien inhabituelle.
« C'est incroyable !» acquiesça la petite en lui souriant.
Ils descendirent lentement au bord de l'eau, sur une petite crique où l'on avait amarré plusieurs barques. Félim choisit la plus grande et la poussa vers la mer. Aléa n'était jamais montée dans un bateau. Elle ne savait pas nager, et l'idée de traverser la baie sur une vieille barque en bois ne l'enchantait guère. Après quelques hésitations, elle décida de faire confiance au druide et monta à bord sans avouer sa peur. Elle s'assit tout au fond de la barque, à l'arrière, et ne bougea plus du voyage, laissant les rames à ses deux compagnons. Fatiguée, elle se laissa aller à quelques rêveries nostalgiques où se mêlaient Saratea, son enfance, et Amine, son amie disparue. Elle se dit qu'elle avait définitivement quitté cette époque, que sa vie ne serait plus jamais la même. Et bercée par le tangage discret de la barque, elle se surprit à le regretter. C'était l'un de ces moments où la fatigue vous rend triste, où les souvenirs pèsent lourd face à la légèreté du présent, où le passé vous échappe, intouchable, comme un tableau magnifique qui s'éloigne et qu'on ne pourrait reproduire. Mjoln ou Félim ne pouvaient partager avec elle les souvenirs de son enfance, évoquer simplement ces petits bouts de rien qui, tous ensemble, avaient fait la vie d'une orpheline avant que la Moïra ne vienne la chercher pour un autre destin. Il ne lui restait que ces images un peu floues, pas un objet, pas une trace, rien d'autre que ses souvenirs pour évoquer son passé. Elle ne sut si l'eau qui coulait sur sa joue était une larme ou simplement quelques gouttes projetées par la mer. Peut-être un peu des deux. Mais ce dont elle était sûre, c'était que cette haute bâtisse qui se rapprochait à chaque coup de rame marquerait dans sa vie un changement irréversible.
« On arrive !»
s'écria Mjoln en lâchant les rames un peu tôt. Il tomba à la renverse et éclata de rire en voyant Aléa sursauter. Félim fit pivoter la barque pour accoster au pied de la falaise, puis s'accrocha à une corde épaisse qui courait le long de la roche, suspendue à des anneaux à intervalles réguliers. Le druide tira sur la corde et la barque longea la falaise jusqu'à un petit escalier taillé dans le roc. Il amarra l'esquif près des marches et descendit le premier, bientôt suivi par Mjoln et Aléa. Sans rien dire, ils commencèrent à gravir l'escalier de pierre, et Mjoln lança un regard inquiet vers le haut de la falaise. Le sommet lui paraissait inaccessible. Pourtant, le souffle court, ils finirent par y arriver. Là, loin au-dessus des flots, ils furent accueillis par trois serviteurs, vêtus de tenues bleues élégantes. Ceux-ci saluèrent d'abord Félim, puis s'inclinèrent devant ses deux compagnons avant de les mener jusqu'à Saïmina par un petit chemin de terre qui passait à travers des buissons. Ils entrèrent dans la cour du chêne par une porte dérobée et découvrirent alors la tour dans toute sa splendeur. Le palais était encore plus impressionnant vu depuis la cour, car alors on prenait conscience de ses dimensions. Les murs étaient si épais et si hauts que, à leurs pieds, on voyait à peine un petit bout de ciel. Autour d'eux, tout était propre et soigné, et Aléa se dit que ce n'était pas étonnant, en voyant le nombre de serviteurs qui circulaient dans la cour. Ici, on cherchait de l'eau au fond d'un puits. Là, on soignait des chevaux, dans de longues écuries pleines de paille dorée. Plus loin, quelques jeunes soldats en harnois s'entraînaient à l'épée avec un vieil homme. Des druides s'affairaient dans leurs manteaux blancs au milieu du cercle de pierre, là où personne d'autre n'était admis. Les habitations des serviteurs et des artisans étaient situées à même la cour. Et leur famille vivait là, ce qui impliquait la présence de petits commerces, d'ateliers, d'une école, si bien que la cour de Saïmina était un village tout entier, vif et coloré, empli des voix humaines comme du bruit des animaux. Un crieur public annonçait le détail de la foire du jour. Des fermiers venus vendre leur bétail laissaient s'échapper quelques bêtes bruyantes. Régulièrement, des cloches sonnaient au-dessus de la cour, annonçant l'ouverture de la grande porte. Aléa, bouche bée, sentit la main de Félim se poser amicalement sur son épaule.
« Voici Saïmina. C'est un lieu que très peu de jeunes filles de ton âge ont eu le privilège de découvrir, tu sais. Il y a tant de choses à voir. Ne perds pas une minute. »
Ils avancèrent à travers la cour vers l'aile nord du palais, plus basse que les autres, où Félim les quitta en leur expliquant qu'ils se verraient au dîner, mais qu'en attendant, on allait leur montrer leur chambre. Deux serviteurs menèrent Mjoln et Aléa à l'intérieur d'un bâtiment de trois étages. La petite ne dit pas un mot et se laissa guider, tant son attention était captivée par la beauté du site. Elle se demandait si elle ne rêvait pas. Il régnait une ambiance étrange dans cette cour immense. Tout était tellement impeccable, les couleurs, les sons, les mouvements réguliers des serviteurs, le balai des soldats. Aléa eut l'impression qu'un voile mystérieux entourait les gens et les choses. Les protégeait, les ordonnait. Oui, cela avait vraiment la saveur d'un rêve. Et pourtant, Saïmina était bien réelle. La jeune fille suivit les deux serviteurs dans le grand escalier, gravissant avec peine les hautes marches de bois et lançant des regards aux nains derrière elle, qui semblaient aussi impressionnés. On leur donna deux chambres mitoyennes. Le décor intérieur du palais était lui aussi une véritable œuvre d'art. Les meubles et les murs étaient plaqués de bois précieux, aux surfaces nues ou en marqueterie contrastée. Des lames de bronze doré couvertes de stries parallèles ornaient le bois sur les pieds des meubles et en encadrement. Partout on retrouvait la figure allongée du dragon de la Moïra, qu'elle fut sculptée dans le bois, peinte sur la porcelaine ou dessinée sur les fines plaques de marqueterie. Il y avait là le résultat de longues années de travail par les plus subtils artistes, d'inavouables richesses d'or et d'argent. Aléa s'assit sur le grand lit à baldaquin et croisa les mains sur ses genoux. Elle n'osait rien toucher, à peine bouger. Elle resta ainsi à admirer sa chambre jusqu'à ce qu'on vînt la chercher. On frappa à sa porte et elle se leva pour ouvrir plutôt que de parler. Une servante assez jeune apparut dans l'encadrement et lui sourit gentiment.
« Mademoiselle ne s'est pas changée ? »
demanda la servante en se penchant à l'intérieur de la chambre pour montrer les vêtements qu'on avait posés sur une chaise.
Ah, non, je ne savais pas que c'était pour moi.
Je crois qu'il serait préférable que vous enfiliez cette robe, mademoiselle.
Une robe ?
C'était un habit de laine gris bleu, noble et ample, à la découpe simple mais élégante, qui s'évasait légèrement au niveau de la jupe. L'encolure ronde et les poignets étaient garnis d'un étroit galon de fil d'or torsadé. Dans le dos, une fermeture descendait jusqu'à la taille, bordée de petits œillets argentés et lacée d'un ruban liseré noir.
« Je n'ai jamais mis une robe comme celle-ci, » reprit la jeune fille qui sentait le rouge monter à ses joues. « Je ne sais pas si je peux. »
La servante sourit et proposa de l'aider à se changer. Quand, plus tard, Aléa se présenta dans l'immense salle à manger du bâtiment principal, elle était vêtue comme une princesse et formale à son aise. Elle avait gardé sur elle la broche que Félim lui avait confiée et la portait fièrement, en espérant que cela l'aiderait à se sentir mieux parmi tant d'inconnus.
« Bienvenue à Saïmina !»
l'accueillit un vieil homme qui s'avança vers elle. Il était chauve, comme Félim, et portait le même symbole sur sa longue toge blanche. Aléa en conclut qu'il était lui aussi un druide, tout comme la demi-douzaine d'hommes qui discutaient derrière lui, devant l'âtre d'une immense cheminée, attendant sans doute la jeune fille pour passer à table.
Vous avez fait bon voyage ?
Pas tout à fait, bégaya Aléa, visiblement embarrassée dans sa robe au milieu de tous ces adultes.
Ah, voilà un peu de naturel ! Mais vous êtes ici en sécurité maintenant,
certifia le vieil homme en la prenant par l'épaule.
Venez vous joindre à nous, nous avons tant de questions à vous poser.
Aléa grimaça. L'idée de se faire interroger par les druides ne l'enchantait pas réellement. Mais elle aperçut Mjoln, assis dans un fauteuil près du feu, et cela la soulagea quelque peu. Elle suivit le vieux druide, et tous les autres s'écartèrent pour la laisser passer. C'était étrange de marcher parmi tous ces hommes qui ressemblaient tant à Félim. Chauve, la même robe, le même symbole, et surtout, le même regard perçant. Félim, assis près du nain, se leva en voyant Aléa arriver et avança vers elle en souriant.
« Aléa, je te présente le conseil des druides, ou du moins ce qu'il en reste puisque plusieurs de nos frères sont partis en mission. Les gens qui sont ici sont tous membres du conseil. Ce sont donc de grands druides, c'est notre titre, tu comprends. Et tu viens de rencontrer Aileen, notre archidruide, et voici Hernan l'archiviste, Shehan, Aengus, Audran, Enon et Tiernan.
Bonjour, dit seulement la jeune fille en s'inclinant légèrement. Elle était un peu perdue dans tous ces titres druidiques. De plus, elle n'avait jamais appris à se tenir correctement en de telles circonstances et se sentait ridicule. Elle était sûre qu'il y avait une manière bien particulière de saluer un druide, mais ne la connaissait pas, et elle n'osait plus en regarder un seul, tant elle se sentait peu à sa place.
Allons, Aléa, ne sois pas timide,
lui dit chaleureusement Félim en l'entraînant près du feu.
Tu seras bien ici. Regarde, Mjoln, il se sent déjà chez lui.
Le nain serra Aléa dans ses bras, puis on les invita à table. Les serviteurs de Saïmina avaient tout préparé avec soin, comme chaque fois qu'il y avait de nouveaux visiteurs dans la tour. L'interminable table en chêne massif était couverte d'une nappe blanche brodée, et les couverts en argent brillaient comme neufs sur le tissu immaculé. Aléa s'émerveilla devant les assiettes de porcelaine où étaient peintes des scènes de chasse tout en couleurs, avec une finesse de traits remarquable. Sur la table, on avait disposé quelques chandeliers où brûlaient de hautes bougies blanches dont les flammes rectilignes se reflétaient sur l'argenterie. À peine les convives s'étaient-ils installés que déjà les serviteurs silencieux et discrets apportaient les plats depuis la cuisine en retrait. Aléa sentit aussitôt l'odeur délicieuse qui s'en dégageait, et cela lui rappela l'oie et le grill. Voilà qu'elle allait de nouveau découvrir des mets extraordinaires, elle qui, toute sa vie, s'était contentée de grignoter ce que la journée voulait bien lui apporter. Les serviteurs déposèrent sur la table 3 grands plats de roulade de veau au boudin. Aléa admira le travail des cuisiniers. C'était un délicieux boudin noir qu'on avait enroulé dans des tranches fines de jambon de bisagne, puis dans un morceau de veau de terre brune qu'on avait ensuite cousu pour maintenir le rôti. On avait alors tartiné la viande de moutarde et enveloppé le rôti de crépines avant de le faire soigneusement dorer au four. Tara n'aurait pas fait mieux, pensa la petite. On servit à Léa d'une épaisse tranche de veau et de petits légumes, et elle attendit que Mjoln commence pour s'assurer qu'elle ne commettait pas d'impair en mangeant à son tour. La sauce était particulièrement savoureuse, et la petite s'appliquait discrètement à tremper chaque bout de veau dans le fond de son assiette pour ne pas en perdre une goutte. Les cuisiniers avaient gratté le fond du plat de cuisson pour faire ressortir les sucs caramélisés et les dissoudre dans la sauce, lui donnant ce goût délicieusement sucré. Aléa se régalait, mais elle était angoissée à l'idée de mal se tenir. Heureusement, on la laissa tranquille pendant toute la première partie du repas, et elle ne dit pas un mot, écoutant les discussions des uns et des autres. Elle ne connaissait pas tout ce dont parlaient les convives, mais elle comprit, entre autres, qu'il y avait une guerre au sud de la galaxie, et que cette guerre préoccupait les grands druides, au moins autant que la mort d'Ilvin. Quand ce sujet arriva enfin, tous les regards se tournèrent vers elle, et Aileen lui posa la première question.
« Comment as-tu retrouvé le corps d'Ilvin ?»
Aléa s'essuya la bouche, baissa les yeux et raconta toute son histoire, en lançant régulièrement des regards à Mjoln à côté d'elle, comme pour y puiser un peu de courage. Félim lui demanda de montrer au druide la bague qu'elle avait trouvée. Aléa était sûre que Félim, d'une façon ou d'une autre, avait déjà tout expliqué à ses confrères, mais il lui sembla que les druides prenaient seulement maintenant conscience de la réalité des faits, et la vision du bijou les plongea tous dans un mutisme pesant. La fin du repas fut assez silencieuse. Aléa remarqua quelques regards gênés et entendit que les druides chuchotaient entre eux. Très vite, le sommeil se fit sentir et la jeune fille demanda à Félim la permission d'aller se coucher. En réalité, elle était surtout pressée de prendre congé de cette compagnie embarrassante qui ne la regardait plus de la même façon depuis qu'elle avait montré la bague. Félim sourit à la petite et lui dit qu'il se verrait le lendemain. Mjoln se leva aussitôt pour accompagner son amie et ils partirent vers leur chambre, escortés par 2 serviteurs.
Mjoln, tu veux bien rester avec moi un petit peu ce soir? Je ne suis pas très à l'aise dans cette grande chambre froide et j'ai tant de conseils à te demander.
Bien sûr! J'aime pas trop ma chambre, Tara! Moi non plus, lanceuse de cailloux!
Ils remercièrent les 2 serviteurs et s'assirent l'un en face de l'autre au milieu du grand lit.
Je me sens tellement seule au milieu de tous ces druides.
Ouais, je vois cela. Et je comprends. Ils sont grands et mystérieux. Oui. Et nous, si petits. Mais Félim est un brave homme. Il ne nous aurait pas emmenés ici s'il y avait quelque chose à craindre.
Rassuré?
Je n'aime pas la façon dont ils m'ont regardé après avoir vu ma bague. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un monstre.
Ah ah, voilà une impression que, je connais bien. Combien de fois tes pareils m'ont-ils lancé ce regard à ma demi-portion, hein? On finit par s'y faire, et il faut se dire que nous, au moins, avons quelque chose de spécial. Le gros nain et la petite fille à la bague.
Mais qu'est-ce que j'ai de spécial, moi, Mjoln?
Tu es ma lanceuse de cailloux. Et à mes yeux, c'est tout ce qui compte. Voilà. Lanceuse de cailloux et aventurière.
Oui, mais à leurs yeux. Tu crois qu'ils me trouvent bizarre? Demanda la petite en baissant les yeux.
Comment le saurais-je, Aléa? Tada! Tu n'es rien d'autre qu'une gentille jeune fille. Allons. Petite Aléa, ne te fais pas de soucis. Il y a moins de danger ici qu'au dehors.
J'aimerais tellement en être sûre, conclut-elle en se glissant dans le lit.
Le nain lui sourit, passa sa main dans les longs cheveux noirs d'Aléa, se dit qu'elle n'avait plus rien d'une enfant, puis il se leva et partit se coucher dans un fauteuil.
Je vais dormir ici. Sommeil, sommeil, juste à côté. Et si jamais je ronfle, viens donc me réveiller. Bonne nuit.
Mais la petite dormait déjà. À la même heure, Kiaran, Fingin et Aod, les trois druides envoyés par le conseil en mission diplomatique, arrivèrent de l'autre côté de la baie avec la barque qu'Alea et ses compagnons avaient utilisée pour venir. Ils marchèrent jusqu'au petit village de Matar, où ils prirent trois chevaux, puis repartirent aussitôt au galop. Le temps pressait. Fingin, laissant son cheval galoper sans retenue, regardait ses frères sans rien dire. Il trouva que Kiaran, comme d'habitude, avait l'air distrait, alors qu'Aod, au contraire, se montrait nerveux et paraissait même en colère. « Il sait qu'Aileen a fait tout cela pour se débarrasser de lui », pensa-t-il, alors qu'ils avançaient vers le sud-ouest. « Je comprends qu'il soit en colère. Ce qui m'étonne, c'est qu'Aileen ait pris ce risque. Il n'y a aucune chance qu'Aod soit bien accueilli en Harcourt. Le comte Feren Alroeg, depuis qu'il est sous l'influence de l'évêque Thomas Aeditus, déteste les druides. Il le fera tuer sur le champ. Il n'a aucune possibilité de s'en tirer. Et alors, qui prendra sa place au conseil ? Voilà ce qui m'étonne. Kaelin ait pu prendre une telle initiative. Non, je ne peux pas y croire.
Quand les chevaux furent trop fatigués pour continuer à galoper, Fingin se décida enfin à interroger Aod.
« Comment vas-tu t'y prendre pour parler au comte Alroeg ? Je veux dire, Thomas Aeditus l'a converti, et il a horreur des druides.
« Veux-tu savoir comment je vais m'y prendre, ou ce qu'Aileen a imaginé que je ferais ?»
Il a deviné ma pensée, comme il a dû deviner celle de l'archidruide. Je dois le prendre à son propre jeu.
Y a-t-il une différence ?
Aod tourna brusquement la tête vers le nouveau druide. Ce n'était pas la première fois qu'il trouvait le jeune homme étonnant, aussi brillant qu'outrecuidant.
Aileen pense que je vais m'enfuir et ne pas remplir ma mission. Il pourrait m'accuser ensuite de n'avoir pas agi selon le vote du conseil et me bannir. Il se dit que je préférerais sans doute cela à la mort. Puisque c'est bien la mort qui m'attend si je vais en Harcourt. Aileen veut se débarrasser de moi, mais pas me tuer. Il espère que je vais fuir et me cacher jusqu'à la fin de mes jours.
Le pauvre est dans une impasse. Comment le conseil a-t-il pu accepter cela ? Moi-même, j'ai voté en ce sens. La ruse d'Aileen était trop parfaite. Je dois apprendre à me méfier davantage.
Pendant tout ce temps, Kiaran restait à côté d'eux sur son cheval noir sans rien dire. Il était difficile de savoir s'il n'écoutait pas, s'il pensait à autre chose, ou si tout simplement il n'avait pas conscience de la gravité de cette conversation.
« Alors, que comptes-tu faire ?» demanda Fingin timidement.
« J'irai mourir en Harcourt, jeune novice. C'est le meilleur moyen de me venger de l'archidruide. »
« Et si ?» Fingin s'interrompit en se rendant compte du manque de respect et du cynisme dont il avait failli faire preuve. Mais il était déjà trop tard.
« Si je meurs, qui me remplacera au conseil ?»
continua Aod à sa place.
« C'est ce que tu veux savoir ? La Moira décidera pour nous. » Mais j'ose espérer que cela donnera à réfléchir à celui qui devra un jour occuper le siège d'Aileen.
Je ne sais si Aod fait preuve de courage ou de folie, mais il m'impressionne.
Fingin, reprit le vieux druide, je sais que tu viens d'être initié, que tu as encore la soif de comprendre et que tu aimerais saisir complètement le jeu de l'archidruide. Je le sais et t'apprécie pour cela. Mais c'est un jeu truqué qui est plus compliqué encore qu'il n'y paraît. Aussi dure que soit la décision de l'archidruide, elle était peut-être la meilleure. Quant à ma réaction, elle me sera sans doute fatale, mais je pense qu'elle pourrait aussi être fort utile. Il arrive un moment, quand on joue le jeu des manipulations humaines, où les intérêts se mélangent tellement que les acteurs mêmes du jeu sont obligés de se sacrifier. Mais je ne veux pas t'infliger tout ça si vite. Tu as le temps d'apprendre, et je ne veux pas être ton professeur. Parlons donc d'autre chose et ne fais pas de conclusions trop hâtives. Nos routes se sépareront à Providence, où ta mission commencera. Jusque-là, laissons la Moira décider du futur, tu veux bien ?
Le jeune druide acquiesça et c'est seulement à ce moment que Kiaran se décida à parler, le regard perdu dans le ciel étoilé.
Ce n'est pas la Moïra qui décide, ce sont les hommes.
Les deux autres le regardèrent, stupéfaits. Ils se dirent que Kiaran était sans doute devenu fou.
Ce n'était toutefois pas une surprise.
Kiaran parlait peu, mais chaque fois qu'il le faisait, c'était souvent pour énoncer une opinion contraire à ce que tout le monde semblait penser. Il ne voyait pas le monde de la même façon que les autres druides, et c'était tout autant sa force que sa faiblesse.
« Tu devrais exposer cette idée devant le conseil, »
dit finalement Aod.
« Je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie, mais au moins tu auras le temps de t'expliquer. »
Une façon courtoise mais sans équivoque de couper court à la conversation. D'ailleurs, Kiaran l'a bien compris. Le voilà de nouveau muet. Le soleil commença à descendre vers la ligne d'horizon et les trois druides repartirent au galop sans rien ajouter. Ils restèrent ainsi sans plus parler 2 jours et 2 nuits, jusqu'aux portes de Providence. Aléa se réveilla en fin de matinée. Elle avait rarement dormi aussi bien et s'étonna que personne ne fût venu la sortir du lit plus tôt. Elle s'étira, puis elle vit que Mjoln n'était plus là. Elle sauta hors de ses draps, enfila ses vêtements et se dirigea vers la porte de la chambre où elle s'arrêta soudain. Si personne n'était venu la réveiller, peut-être n'était-elle pas censée sortir d'ici. Pourtant Mjoln, lui, ne s'en était pas privé. Elle ne savait que faire, ni où aller si elle sortait seule de sa chambre. Elle songea un instant qu'un serviteur l'attendait peut-être sagement de l'autre côté de la porte et rit à l'idée qu'il aurait dans ce cas attendu bien longtemps. Elle eut alors l'idée d'aller voir à la fenêtre. Elle écarta le rideau qui voilait la lumière du soleil et eut du mal à s'habituer à l'éclat du jour. Dans la cour du palais, elle vit encore plus d'agitation que la veille. Elle aperçut rapidement Mjoln, qui discutait sur un banc avec un immense guerrier en armure de cuir clouté sur une cotte de maille et dont les longs cheveux noirs étaient noués dans le dos. À qui Mjoln pouvait-il bien parler ainsi? Sans plus hésiter, elle se précipita hors de sa chambre, ne trouva personne dans le couloir et descendit les escaliers pour sortir dans la cour. Quand elle arriva en bas, les gens la saluèrent poliment et ne parurent guère étonnés de la voir. Le palais resplendissait sous le soleil. Mjoln était à présent seul sur le banc et il observait le guerrier avec qui il parlait quelques instants plus tôt. L'homme en armure entraînait maintenant un jeune garçon, quelques mètres plus loin. Le bruit des armes qui s'entrechoquaient se mêlait au brouhaha continu de la cour, avec son puits, ses animaux, son forgeron et les conversations, si bien que Mjoln n'entendit pas Aléa approcher. Elle s'assit à côté de lui et il sursauta quand elle lui dit bonjour.
« Tu m'as fait peur, hé ?» « Bonjour Aléa. Oui, un très bonjour. Regarde ce soleil. Et Saïmina, sous cet éclairage, c'est si différent d'hier soir, n'est-ce pas? Comme un nouveau bâtiment. Et regarde ces guerriers qui s'entraînent. Bim, à gauche, bam, à droite, ils frappent fort et juste. C'est de l'art, n'est-ce pas?
Si tu le dis, c'est le guerrier avec qui tu parlais tout à l'heure?
Oui, Galliad. Mais pas vraiment un guerrier. Non, c'est le magistel de Félim. Et là, c'est son fils Erwan, à qui il enseigne maintenant le maniement de l'épée. Bim!
Aléa vit le jeune garçon que désignait Mjoln, et elle eut un mouvement de recul. Il lui semblait qu'elle le connaissait, mais elle ne parvenait pas à se rappeler vraiment ce visage, et ne pouvait encore moins y mettre un nom. Un magistel? C'est quoi? Demanda-t-elle sans quitter le jeune homme des yeux.
Une sorte de soldat particulier pour les grands druides. Bam! Tu attaques un grand druide, tu as affaire à son magistel. Ah ça oui, ça fait mal! Chaque grand druide a son magistel. Il y en a donc 13, puisqu'il y a 12 grands druides et un archidruide. Enfin 11, plutôt, car vois-tu, de grands druides ont disparu du conseil.
Mais c'est un secret.
Bof, c'est compliqué. Enfin bref, ces magistels sont choisis pour leur force et leur habileté. Ce sont donc, sans doute, les 13 meilleurs combattants du monde. Galliad est très gentil, il m'a même remercié d'être venu avec Félim, comme si j'avais protégé son maître alors que c'est tout le contraire. Incroyable, non?
J'ai déjà entendu parler de ce magistèle, tu sais, dans les contes d'un barde.
Et qu'est-ce qu'on dit de lui ?
On raconte qu'il tua le dernier dragon et que son épée ventrale, il la retira de la queue de ce monstre.
Voilà une drôle d'histoire, dit Aléa avec une moue dubitative.
Et c'est pas tout. On raconte qu'il est capable de donner le nombre exact de ses ennemis en regardant une armée qui avance sur lui. Et qu'il est si bon pisteur qu'il ne perdit jamais une seule proie.
Et tu dis que le jeune homme avec qui il se bat est son fils. Étrange façon d'élever son fils que de lui taper dessus avec une épée.
Mais Galliad veut qu'Erwan devienne un jour magistèle à son tour. Bim, bam. Et il faut donc qu'il lui apprenne tout ce qu'il sait. Ah, ça oui, ça fait beaucoup. Et il m'a dit aussi que si nous restions à Saïmina, il pourrait nous apprendre à nous battre, à toi et à moi.
Nous battre ? S'écria Aléa. Elle reporta son regard sur les deux hommes qui s'entraînaient. Galliad avait évidemment le dessus, mais Erwan ne se décourageait pas. Il était plein d'énergie et de volonté. Comme son père, il avait de longs cheveux noués derrière la nuque, mais les siens étaient blonds. Aléa se surprit à regarder le garçon fixement, puis secoua la tête comme si elle voulait chasser quelque idée de son esprit. Et soudain cela lui revint comme un nom qu'on cherche depuis longtemps et qui surgit enfin dans la mémoire. C'était le jeune garçon qu'elle avait vu en rêve quelques jours plus tôt et qu'il avait retenu alors qu'elle était irrésistiblement attirée vers un temple maléfique. Oui, c'était bien lui, elle en était sûre à présent, et cette certitude lui glaça le sang. Comment avait-elle pu rêver d'un garçon qu'elle n'avait jamais vu avant ? Comment avait-elle pu deviner en rêve qu'elle allait le rencontrer ? Quelle magie avait-il là-dessous ? C'est à ce moment que Félim arriva dans la cour à son tour.
« Bonjour, mes amis. Je vois que vous avez fait la connaissance de Galliad et de son fils. C'est parfait. Je voulais justement vous les présenter. Aléa, tu n'as encore rien mangé. Viens, je vais te montrer où tu peux te servir. »
La jeune fille, troublée, se laissa conduire dans le palais sans rien dire. Quand elle eut fini de manger les petits pains aux raisins qu'on avait préparés pour elle, Félim entreprit de lui faire visiter le reste de la somptueuse tour. Ils y passèrent la journée, admirant l'édifice dans ses moindres détails, à l'exception du donjon central.
« C'est la chambre du conseil !» avait expliqué le druide. « Tu n'as pas le droit d'y entrer. Personne n'a le droit d'y entrer à part les druides, et en de rares occasions les bardes et les vates. »
Aléa avait acquiescé sans mot dire, puis elle avait suivi son hôte de cour en escalier, de chambre en salon, d'écurie en moulin, et elle avait pu constater une nouvelle fois que tout était remarquablement décoré et entretenu. Plus tard, ils avaient visité les célèbres jardins du palais, et Aléa profita de ce moment de solitude pour poser à Félim toutes les questions qui la torturaient. Tout nouveau jour qui passait la plongeait dans une inquiétude plus profonde encore. Elle sentait le poids d'une responsabilité inconnue peser chaque matin un peu plus sur ses épaules, sans qu'elle puisse vraiment se l'expliquer. « Félim, pourquoi suis-je ici ?»«
Pour être hors de danger. » répondit le druide.
Non, pas seulement. Je veux entendre la vérité, insista la jeune fille. Pourquoi suis-je vraiment ici ? Félim continua de marcher sans répondre, puis il invita Aléa à s'asseoir près de lui, sur un banc d'où il pouvait admirer le donjon de Saïmina.
Tu as à présent une vague idée de ce qu'est un druide.
Un magicien ?
Tu peux nous appeler comme ça si tu veux. Pour simplifier, disons qu'un druide est un homme qui peut capter un pouvoir qui est au fond de chaque homme et qu'on appelle le Saïman. Et ce pouvoir nous permet de contrôler momentanément les éléments qui nous entourent si nous apprenons à nous en servir.
« Je vous ai vu vous transformer en feu contre les bannis et les gorgounes, » glissa Aléa.
« Oui, et c'est un exercice très dangereux. Un druide sait qu'il ne faut pas abuser de son pouvoir. » Mais ce n'est pas là que je veux en venir. Ilvin, l'homme que tu as trouvé dans la lande, était le Samil d'Anak, c'est-à-dire un homme encore plus puissant qu'un druide. Le Samil d'Anak contrôle le Saïman de manière Éternel. Comment t'expliquer cela? Disons qu'il peut modifier les éléments et les laisser ainsi pour toujours. Tu imagines bien que c'est un pouvoir inquiétant, presque infini, et qui nous dépasse complètement.
Aléa acquiesça, fascinée.
Je ne sais pas si tu saisis bien, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le Samil Danak, quand il meurt, lègue son pouvoir. C'est la seule façon dont se transmet cette force unique. Il n'y a donc jamais plus d'un Samil Danak. Fort heureusement, tous les Samil Danak jusqu'à aujourd'hui étaient des hommes bons qui léguaient chaque fois, sciemment, leur pouvoir à d'autres hommes de bonne volonté. Ainsi, aucun Samil Danak n'a jamais utilisé son pouvoir à mauvais escient. Mais nous ne savons pas aujourd'hui qui a hérité du pouvoir d'Ilvin, car le vieil homme est mort un peu tôt et visiblement seul au milieu de la lande. Et... comment dire ?
Aléa redouta la suite des propos du vieil homme. Elle vit que Félim joignait ses mains sur ses genoux et courbait le dos, comme si cela lui pesait de dire ce qu'il avait à dire.
« Nous avons peur que cela puisse être toi. »«
Moi ?» souffla la petite en se redressant.
« Peut-être. Tu l'as touché quand il était enterré dans la lande, et tu as depuis lors ressenti plusieurs fois une force étrange qui se saisissait de ton corps. Cette énergie, ma petite Aléa, pourrait bien être celle du Samil Danak. »
La jeune fille se sentit défaillir. Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle savait que quelque chose de singulier s'était passé le jour où elle avait touché la main d'Ilvin. Mais elle refusait cette idée. Elle devinait qu'un tel pouvoir ne pouvait attirer que des ennuis. Aléa ferma les yeux et supplia la Moïra.
« Je ne suis qu'une petite fille, et ce n'est pas ce que j'ai demandé, Moïra. Je vous en supplie, faites que cela ne soit pas moi. »
« Cela pourrait être le signe que tu es le Samil Danak, »
reprit Félim.
« Et pourtant, c'est impossible. »
Aléa se redressa aussitôt, avec une lueur d'espoir dans le regard.
« Pourquoi ?»«
Tu es une fille. »«
Et les filles ne peuvent hériter du Samil Danak ?»«
Non. »
Aléa parut presque soulagée. Si Félim disait vrai, peut-être serait-elle bientôt débarrassée de toute cette histoire.
Ce que tu as reçu pourrait consister en, comment dire, un résidu de son pouvoir. Peut-être avait-il déjà légué son Samil Danak, et n'as-tu reçu alors qu'une infime partie qui subsistait au bout de ses doigts? Je ne sais pas. C'est ce que nous voudrions comprendre.
Ils restèrent tous les deux un moment sans parler. Aléa regardait le donjon en mesurant les conséquences de tout ce que Félim venait de lui expliquer. Elle était terrorisée. Elle qui avait espéré que la vérité saurait dissiper son inquiétude, elle était encore plus inquiète maintenant qu'elle savait. Mais surtout, elle était terrifiée à l'idée que le conseil l'ait amenée ici pour l'étudier. Qu'allait-il lui faire? Qu'allait-elle devoir subir? Et surtout, qu'allait-on découvrir? Elle se dit qu'elle aurait préféré ne pas savoir, qu'elle aurait voulu oublier tout ça, et partir à Providence, avec Mjoln, en laissant derrière elle ses histoires de sorciers. Pourtant, elle savait qu'une autre menace l'attendait au dehors, Maol Morda, et peut-être qu'en comprenant mieux ce qui s'était passé, cela écarterait cet autre danger. « Comment saurons-nous ce qui m'est arrivé précisément ?» demanda-t-elle après quelques minutes de silence. Félim la regarda sans répondre. Puis il passa une main amicale dans la chevelure brune de la jeune fille et sourit. Il se leva ensuite, fit quelques pas vers la cour et attendit qu'Aléa se décide à le suivre. La conversation était visiblement close. Aléa soupira, traversa les jardins où s'étendait l'ombre de la haute tour et passa la porte du bâtiment central sans même adresser un regard au druide. Elle prit le grand escalier et monta dans sa chambre, où elle s'enferma en silence. Elle ne put penser à autre chose jusqu'au soir. Comme Jeune vint pour faire une partie de Fitchel, elle répondit qu'elle était fatiguée et préférait dormir. Mais elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Au petit matin, les paroles du druide résonnaient encore dans sa tête.